When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Pour moi, en tout cas sur l'Otilo, elles ont toutes quelque chose. La première, tu prends Uto, déjà tu es sur le village d'arrivée des championnats du monde, donc il y a un côté un peu mythique. Et en plus de ça, pour le coup, toutes les transitions, tu sors et tu rentres dans des rochers qui sont très glissants. Et tu as une partie un peu trail. Tu vas à Scilly, ça c'est un archipel au large de l'Angleterre qui est incroyable, tu as l'impression d'être dans les Caraïbes. Et tu as au tout début de la course un enchaînement d'une natation de 2 km, courir 600 mètres et à nouveau une natation de 1,5 km. Pour les nageurs, ça va. Pour donner un ordre d'idée, un Ironman, c'est 3 km de natation et c'est une montagne. C'est une montagne. Là les gars, ils font ça dès le début et après ils s'en remettent 6 dans la course. Et il faut courir, donc il y a toujours un truc que tu viens à surmonter. Tu passes en Engadine en Suisse, il y a 1006 de dénive plus des lacs qui sont en altitude qui sont gelés. Göteborg, c'est tu sautes de roche en roche et c'est très très technique. Championnat du monde, n'en parlons pas. Même Cannes en fait au final, où ils ont réussi à un côté un peu incroyable du début où tu pars des îles du Lorrain, derrière tu passes devant la Croisette, tu es sur le tapis rouge, après tu remontes sur la croix des Gardes, je crois qu'elle s'appelle, tu redescends, tu repasses la Croisette et après tu montes le long d'un vieux funiculaire, tu es le long des rails dans une espèce de jungle, tu redescends dans la jungle, tu passes dans un caniveau, dans une grosse bouche de caniveau en rampant, tu suis le cours d'eau, tu es dans une espèce de jungle, enfin tu vis une expérience dans chacune des étapes de manière différente, mais dans chacune des étapes tu vis vraiment une expérience et c'est ce qu'ils cherchent à faire, hein, tous.
J'ai forcément une question de triathlète, tu vois, sur les transitions. On sait à quel point, tu vois, notamment sur le format olympique, au très haut niveau, à quel point les transitions sont clés, parce que sur la moindre erreur qui va te coûter 5-10 secondes, tu peux perdre une course, parce que, notamment sur la T2, même plus sur la T1, tu vois, si tu loupes le pack de vélo, c'est fini. Pareil, s'il y a un mec qui te prend 20 mètres d'avance sur la course à pied, ben, en fait, psychologiquement, c'est catastrophique. Je vois moins l'importance des transitions sur le swimrun, mais je me dis, bon, sur les championnats du monde, tu fais 22 fois la double transition d'entrée dans l'eau. Ça doit quand même être hyper important. Qu'est-ce qui est clé? Qu'est-ce qu'il faut bien réussir sur tes transitions? Est-ce que c'est le changement de température, justement, parce que tu passes d'une eau où il fait quoi? Il fait 12-13 degrés de l'eau et tu sors de l'eau et puis il y a pas mal de vent. C'est quoi l'enjeu?
L'enjeu, c'est le temps, hein, c'est sûr. C'est le temps et c'est tout comme tu peux vraiment gagner. Tu fais un gros gap en triathlon sur ce tout petit moment. Nous, comme tu l'as dit, c'est plein de fois. Et en plus de ça, et je ne me dis pas la chose, hein, mais un triathlète, il vient, il enlève ses affaires natation, il les jette et il monte sur son vélo. Il descend son vélo, il jette son vélo ou presque, il met ses chaussures, il s'en va. Nous, à chaque fois, il n'y a pas qu'un truc à faire. Il faut remettre tes lunettes, il faut refermer la combi, il faut attacher l'autre, il faut mettre le plaquette sur les mains, il faut remettre le pull boy. Tu as énormément de choses à faire par rapport à ça. Il faut regarder où tu vas parce que le triathlon, mine de rien, tu es très cadré, tu as des bouées de partout, tu as un ouvreur avec un canoë devant. Là, c'est une race aventure, hein, presque. Hein. Donc, avant de plonger, il faut que tu saches à quel endroit tu dois sortir. Parce qu'une fois que tu es dans l'eau, c'est pas dans l'eau que tu vas chercher la bouée. Hein. Et donc, tu vas la chercher quand même, mais tu la vois moins. Donc, il y a tout ça à gérer. Et c'est un vrai challenge. Et donc, du coup, nous, pour pouvoir faire la différence là-dessus, c'est qu'il n'y ait aucun moment d'arrêt. Et que tout soit fluide. Et donc, pour que tout soit fluide, c'est des routines avec la montre pour calculer grosso modo dans combien de temps tu seras à l'eau. Parce que tu connais pas les parcours et quand tu es dans la forêt, tu te rends pas compte des fois que l'eau elle est juste là. Donc, tu peux le faire que la distance et tu connais tes distances de course. Donc, tu te prépares à l'avance et après, tu te fais des routines. Tu sais que, bah, à 200 mètres avant, il faut commencer à remettre la combi si tu as fait tomber la combi. Il faut commencer à remettre le bonnet, les lunettes, le plaquette et le pull boy, rattacher la corde. Tu as tous ces sujets-là à faire petit à petit. Donc tu les cadres et tu crées ta routine.
Avec un ordre spécifique, j'imagine, pour.
Bah, le plus simple, c'est d'avoir un ordre spécifique. Comme ça, tu sais qu'il y a pas de. Tu fais pas, t'oublies pas, généralement, globalement. Ouais.
Oui, mais si tu mets les plaquettes en premier, je pense que c'est pas évident de mettre ton bonnet
t'as
après.
Ça, t'as aussi cette partie-là. T'as déjà mis les plaquettes, mais il faut que tu remettes la combi. Ça devient compliqué, mettre le bonnet encore plus. T'as ça. Après, t'as aussi une complicité avec ton binôme, hein, juste pour faire des checks. Nous, je sais qu'on énumère chacun des ustensiles les uns derrière les autres. Et on se dit ok et après on passe à l'autre et ce qui fait qu'en fait une fois que tu arrives devant l'eau bah tu as les 5 derniers mètres, tu regardes où est la bouée et une fois que tu es devant l'eau tu sautes quoi. Et ça mine de rien ça permet de faire quelque chose de fluide non-stop qui peut créer la différence.
Ouais ok d'accord ouais, je vois très très bien. Donc vous avez énormément de routines de travail justement pour automatiser ça. Tu m'as fait une transition toute faite en parlant de Max, ton coéquipier. Lui, alors du coup lui est suédois. Moi je serais curieux de savoir bah, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés. Vous êtes trouvés parfaitement parce que c'est un sport d'équipe. Du coup vous êtes champion du monde tous les deux. Est-ce que tu peux nous raconter cette petite histoire humaine de rencontre qui aboutit à un franc succès parce que j'imagine qu'en plus si t'étais avec ton frère avant, alors il me semble que t'as eu un partenaire entre les deux.
J'ai un partenaire entre les deux, ouais, tout à fait.
Mais si tu peux raconter un petit peu justement l'histoire de comment tu oses quitter ton frère jusqu'à la rencontre avec Max et cette suite de succès qui s'en est suivie avec une saison parfaite où vous avez tout gagné et on vous annonçait gagnant et champion du monde bien avant de l'avoir fait. Comment est-ce que tu fais tes choix de partenaire et puis comment les histoires elles se sont faites quoi ?
Comment elles se sont faites ? Alors du coup, mon frère, j'ai raconté comment ça s'est fait. Derrière, en fait, cette première année où on s'y est mis avec mon frère, donc on fait cette deuxième étape dans la foulée et là, en fait, à cette deuxième étape, il y a un binôme mixte qui s'embrouille et en fait dans un binôme mixte globalement, c'est pas tout le temps le cas mais globalement l'important c'est la femme parce que c'est statistiquement l'élément qui va être le moins performant quand tu veux crier au plus haut niveau je veux dire et du coup de là on me propose en fait de remplacer ce monsieur dans ce binôme semi-pro et donc je me retrouve à faire les championnats du monde dès ma première année de swimrun 4 mois après. Et donc là, forcément.
Avec une femme que tu connais pas trop.
Que je connais pas trop. Donc j'ai couru une fois avec elle, parce que du coup, je l'avais fait venir à Marseille, parce qu'elle avait fait aussi un test, elle aussi, parce qu'elle avait des enjeux. Donc elle était venue à Marseille sur un swimrun à Marseille, on avait fait un swimrun ensemble, c'était bien passé et c'était okay. Fluide.
C'est elle qui vient te chercher.
C'est elle qui vient me chercher. Alors c'est elle qui vient me chercher. En fait, les gens qu'on a rencontrés à Jvar, qui m'avaient embrigadé dans cette poursuite, savaient qui j'étais. Savaient qui j'étais en termes de nageur. Ils en ont parlé, ils l'ont proposé et elle a dit ouais pourquoi pas why not et elle est, on a fait un test là-dessus et puis après on fait les mondes dans la foulée et à ces mondes-là je me retrouve à me sortir la rotule dans la course au tout début de la course c'était génial kilomètre 3 t'as un team pro qui t'a tout payé le billet d'avion là nanana, et tu fais la rotule qui sort au kilomètre 3 je peux te dire que là j'ai dit bon bah maintenant mon gars tu vas serrer les dents hein, parce qu'ils ont mis un billet sur toi donc j'ai fait toute la course avec la rotule dehors je me suis défoncé la rotule c'est un moment où j'arrivais sur Montpellier et je me renseigne auprès de potes triathlètes qui sont sur Montpellier ils sont quelques-uns là-bas et qui me disent bah tiens il y a un kiné il s'appelle Mathieu va le voir. Et en fait, je rencontre ce fameux Mathieu qui, du coup, me remet d'aplomb pour repartir en course. Donc ça, c'était en août. En janvier, je me fais la clave. Donc, je revois Mathieu à nouveau. Et à ce moment-là, je m'étais déjà mis dans une dynamique que je voulais faire plus de courses, un peu plus performant. Et là, Mathieu se prend à fond dans le projet. Et en 3 semaines, je suis à nouveau dans l'eau à faire de la mobilité. En bout de 5, je nage avec une clavicule qui était en 4 morceaux. Donc, j'ai encore une plaque et j'ai tout ce qu'il faut. Donc, il m'a pas lâché du truc. Et pour se motivé et se mettre vraiment dedans et lui il est triathlète et il s'est dit bah tiens il faudrait qu'on en fasse une ensemble et donc du coup on est un an après je refais la Croatie avec Mathieu.
Donc il s'est mis l'objectif de le faire avec toi pour objectif commun quoi en plus.
C'est un objectif commun et du coup ça a remotivé tout le monde et ça a poussé tout le monde à suivre aussi bien la réparation de la clave que de moi garder aussi deux blessures d'affilée pour se motiver et se remettre dans le sport et se mettre un coup de pied au cul et donc là on fait ça et là on fait avec Mathieu on fait, je sais plus, je crois 5e ou 6e. Lui, c'était sa première course de swimrun, ou presque. En tout cas, première sur la belle Otilo. Et là, on chope la qualif au monde ce jour-là. Et donc là, c'était prévu que de toute façon, la course à la qualif était avec mon frère. Donc je l'ai fait j'ai fait les mondes avec mon frère. Mais du coup, ça nous a aussi donné envie avec Mathieu d'aller faire plus loin en se disant bon, première fois qu'on fait ça, on fait 6. En plus, en faisant plein d'erreurs, Mathieu il fait une hypo. Il y a un moment, on se perd sur une partie du parcours. Donc il y avait moyen. Et en plus, on lidait au début, on lidait la course. Donc on se dit, il y a moyen de faire quelque chose. Et donc c'est comme ça qu'on a basculé là-dessus avec Mathieu. Et puis après avec Mathieu d'ailleurs ça a été un cycle et fin de cycle lui sur les championnats du monde de 2021 il se blesse à la cheville, il se fracture une partie du pied.
À chaque fois c'est en course que vous vous cassez la gueule. Mais c'est dingue le nombre de blessures et d'accidents qu'il y a quoi, c'est hyper dangereux.
C'est d'un moment où tu prends des risques hein, donc
c'est l'eau et tu cours.
Ouais, c'est ça, là on était en train de se bagarrer pour la deuxième place, on prend des risques. Mais en plus c'est même pas un moment où il fait ça, c'est pas un moment de risque, c'est un moment de d'égarement et un mauvais mouvement au mauvais endroit, et donc il se fracture le pied, et puis on finit par faire pareil. Il fait ça au kilomètre, je crois, 40, il en restait 30, et on finit la course, et on finit 3, et lui, il était bousillé. Et donc là, après, par la suite, il me fallait moi, je voulais continuer à courir, il me fallait un nouveau partenaire, et en fait, 2 mois plus tôt, on se retrouve à une course en Suède où je suis avec Mathieu, Max, mon nouveau partenaire, du coup, est avec un ancien champion du monde avec qui je m'entendais bien, et on fait toute la course un peu à se tourner autour, et à un moment, il y a 6 km de course à pied, et on les fait en fait tous les 4. Et à chaque fois, Max devant, moi devant, et derrière, les deux partenaires rattachés, qu'on ne pouvait plus, parce qu'ils étaient dans un mauvais jour, les pauvres, tous les deux, avec la corde. Et nous, on était en train de tirer comme des bœufs. Et en plus, en train de discuter à ce moment-là. Et du coup, l'ancien champion du monde qui dit à Mathieu, mon ancien partenaire, ça serait quand même plus simple qu'on soit ensemble et que les deux chiens fous, là, devant, ils fassent leur vie, parce qu'on passerait moins une journée dure.
Pendant la course, il dit ça.
Pendant la course, il dit ça. Parce que c'est pour montrer aussi le côté un peu friendly de ce sport. Et au championnat du monde, quand à la ligne d'arrivée je discute avec cet ancien champion du monde qui là venait finir 2 du coup et a vu en fait Mathieu se fracasser la cheville sur la course, parce qu'on était à la bagarre à ce moment là on en parle un peu, on débrief, puis on en discute et je dis bah là bon, du coup il va falloir que je trouve quelqu'un pour finir la saison, et il me dit c'est peut-être le moment de tenter ta chance avec Max.
Okay.
Et c'est comme ça qu'on a pris le premier départ ensemble avec Max.